Chapitre 24. Figure d'Israël. Nous avons vu en figure dans le chapitre 23 l'histoire des dispensations de Dieu envers Israël, depuis le sacrifice du véritable agneau pascal jusqu'au repos et à la gloire du royaume millénaire. Dans le chapitre qui est devant nous maintenant, nous avons deux grandes idées. D'abord le témoignage et le mémorial des 12 tribus, maintenu continuellement devant Dieu par la puissance de l'Esprit et par la sacrificature de Christ, puis l'apostasie d'Israël selon la chair et le jugement qui en est la conséquence. Le luminaire qui brûle continuellement. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Commande aux fils d'Israël qu'il t'apporte de l'huile d'olive pure, broyée pour le luminaire, afin de faire brûler la lampe continuellement. » Aaron l'arrangera devant l'Éternel continuellement du soir au matin, en dehors du voile du témoignage, dans la tente d'assignation. C'est un statut perpétuel en vos générations. Il arrangera les lampes sur le chandelier pur devant l'Éternel continuellement. Versets 1 à 4. L'huile d'olive pure broyée représente la grâce du Saint-Esprit basée sur l'œuvre de Christ figurée par le chandelier d'or battu. Il fallait que l'olive soit broyée pour donner l'huile et que l'or soit battu pour former le chandelier. En d'autres termes, la grâce et la lumière de l'Esprit sont basées sur la mort de Christ et maintenues dans leur clarté et leur puissance par la sacrificature de Christ. La lampe d'or répandait sa lumière dans toute l'enceinte du sanctuaire pendant les longues heures de la nuit, quand les ténèbres régnaient sur le peuple et que tous étaient plongés dans le sommeil. C'est une image de la fidélité de Dieu envers son peuple, quelle que soit sa condition extérieure. Les ténèbres et le sommeil pouvaient s'étendre sur eux, mais la lampe devait brûler continuellement. Le souverain sacrificateur était responsable de veiller à ce que la lumière constante du témoignage brûle pendant la nuit. Aaron l'arrangera devant l'Éternel continuellement, du soir au matin, en dehors du voile du témoignage, dans la tente d'assignation. Les 12 pains et l'unité du peuple. Mais plus loin nous lisons, « Et tu prendras de la fleur de farine, et tu en cuiras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2/10, et tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée sur la table pure devant l'Éternel, et tu mettras de l'encens pur sur chaque rangée, et ce sera un pain de mémorial, un sacrifice par feu à l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on les arrangera devant l'Éternel, continuellement, de la part des fils d'Israël. C'est une alliance perpétuelle. Et cela appartiendra à Aaron et à ses fils, et ils le mangeront dans un lieu saint. Car celui sera une chose très sainte, d'entre les sacrifices de l'Éternel faits par feu. C'est un statut perpétuel. » Versets 5 à 9. Il n'est pas fait mention de levain dans ces pains. Il représente Christ en liaison immédiate avec les 12 tribus d'Israël. Ils étaient exposés dans le sanctuaire, devant l'Éternel, sur la table pure pendant 7 jours, après lesquels ils devenaient la nourriture d'Aaron et de ses fils. Ils offrent une nouvelle image de la condition d'Israël aux yeux de l'Éternel, quel que soit son aspect intérieur. Les 12 tribus sont continuellement devant lui. Leur mémorial ne peut jamais cesser. Elles sont rangées dans un ordre divin, dans le sanctuaire, couvertes du pur encens de Christ. Elles reposent sur la table pure, sous les rayons éclatants des lampes d'or qui brillent d'une clarté inaltérable pendant les heures les plus sombres de la nuit morale de la nation. Nous apprenons en Hébreux 9 que toutes ces choses étaient les images des choses qui sont dans les cieux, et encore au chapitre suivant, qu'elles étaient l'ombre des biens à venir. Il y a donc dans les cieux des choses qui répondent aux images, une substance qui répond à l'ombre. Il y a dans les cieux ce qui correspond aux 7 lampes, à la table pure et aux 12 pains. C'est une vérité divine dont la foi s'est nourrie de tout temps. Que voulait dire l'autel d'Élie, construit de 12 pierres au sommet du mont Carmel? Ce n'était pas autre chose que l'expression de sa conviction de cette vérité dont les 12 pains étaient l'image. Il croyait à l'unité indissoluble de la nation, maintenue devant Dieu, dans l'immutabilité de la promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, quelle qu'ait pu être la condition extérieure du peuple. L'homme pouvait chercher en vain la manifestation de l'unité des 12 tribus, mais la foi pouvait toujours regarder dans l'enceinte sacrée du sanctuaire et voir là les 12 pains couverts d'encens pur. Et lors même qu'au dehors, tout était enveloppé des ombres de la nuit, la foi, à la lumière des 7 lampes d'or, pouvait discerner la même grande vérité, l'unité indissoluble des 12 tribus. Il en est de même aujourd'hui. Rien ne peut faire distinguer l'unité des tribus d'Israël. Elles sont dispersées parmi les nations et perdues aux yeux de l'homme. Mais leur mémorial est devant l'Éternel. La foi le reconnaît. Elle voit, par la lumière de l'Esprit, le mémorial des 12 tribus fidèlement conservé dans le sanctuaire céleste. Écoutez ces paroles de Paul. « Et maintenant je comparais en jugement pour l'espérance de la promesse faite par Dieu à nos pères, à laquelle nos 12 tribus, en servant Dieu sans relâche nuit et jour, espèrent parvenir. » Acte 26, versets 6 et 7. Si le roi Agrippa avait demandé à Paul « Où sont les 12 tribus ?», il n'aurait pu les lui montrer. Non parce qu'on ne pouvait pas les voir, mais parce qu'Agrippa n'avait pas les yeux pour les voir. Les 12 tribus étaient bien au-delà de la portée de sa vision. Il fallait l'œil de la foi et la lumière de l'Esprit de Dieu pour pouvoir discerner les 12 pains rangés sur la table pure dans le sanctuaire de Dieu. Ils étaient là, et Paul les voyait là, quoique le moment où il exprimait sa profonde conviction ait été aussi sombre que possible. La foi ne se laisse pas gouverner par les apparences. Elle se place sur le rocher élevé de la parole éternelle de Dieu, et dans tout le calme et toute l'assurance de cette élévation, elle se nourrit de la parole immuable de celui qui ne peut mentir. L'homme qui blasphème le nom de l'Éternel. Nous arrivons maintenant au second point de notre chapitre, savoir l'apostasie d'Israël selon la chair et le divin jugement qui en fut la conséquence. Et le fils d'une femme israélite, mais il était fils d'un homme égyptien, sortit parmi les fils d'Israël, et le fils de la femme israélite et un homme israélite se battirent dans le camp. Et le fils de la femme israélite blasphéma le nom et le maudit. Et on l'amena à Moïse. Et on le mit sous garde, afin de décider de son sort, selon la parole de l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Fais sortir hors du camp celui qui a maudit. » Et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et que toute l'assemblée le lapide. Et Moïse parla aux fils d'Israël, et ils firent sortir hors du camp celui qui avait maudit, et le lapidèrent avec des pierres. Et les fils d'Israël firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Versets 10 à 23. La place particulière accordée à ce récit par l'auteur inspiré est remarquable. Je ne saurais douter qu'il ne soit mis là pour nous donner l'autre face du tableau présenté dans les premiers versets du chapitre. L'Israël, selon la chair, a gravement manqué et péché envers l'Éternel. Le nom de l'Éternel a été blasphémé parmi les gentils. La colère est venue sur la nation. Les jugements d'un Dieu offensé sont tombés sur elle. Mais le jour approche où les sombres nuages du jugement seront dissipés et où les 12 tribus, dans leur unité indissoluble, se présenteront devant toutes les nations comme le monument merveilleux de la fidélité et de la bonté de l'Éternel. Et tu diras en ce jour-là, « Je te célébrerai, Éternel, car tu étais en colère contre moi, et ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est mon salut. J'aurai confiance et je ne craindrai pas, car Jah, Jéhovah, est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses actes. Rappelez que son nom est haut élevé. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Cela est connu dans toute la terre. Pousse des cris de joie et exulte, habitante de Sion. Car grand au milieu de toi est le Saint d'Israël. » Ésaïe 12. Voir aussi Romains 11, versets 25 à 36. On pourrait multiplier les passages pour prouver que, quoique Israël soit sous le jugement de Dieu à cause de son péché, cependant les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Que, quoique le blasphémateur soit lapidé hors du camp, les 12 pains demeurent intacts dans le sanctuaire. La voix des prophètes déclare, et la voix des apôtres répète la glorieuse vérité, que tout Israël sera sauvé, non parce qu'ils n'ont pas péché, mais parce que les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Que les chrétiens se gardent de dédaigner les promesses faites au Père. Si ces promesses sont oubliées ou mal appliquées, notre sens moral de l'intégrité et de l'exactitude des Écritures tout entières en est affaibli. Car si l'on peut en laisser de côté une partie, on peut en faire de même avec une autre. Si l'on peut interpréter vaguement un passage, on peut en faire de même avec un autre. Et ainsi il arriverait que nous perdrions notre certitude à l'égard de tout ce que le Seigneur a déclaré.